Alors je voudrais développer devant vous quelques-unes des idées présentes dans cet ouvrage très célèbre et très intéressant à lire, l'essai sur le développement. Cet ouvrage est dominé par la conviction qu'il y a une idée du christianisme qui traverse toute l'histoire, qui est présente dans le Nouveau Testament, dans la tradition apostolique, dans la vie de l'Église dès ses débuts. Et par idée, il n'entend pas au sens actuel du mot du Saint-Esprit, idée qui nous passe par la tête, mais il veut dire par là qu'il y a une certaine intuition. Une intuition profonde, une réalité spirituelle qui est riche de signification, si riche qu'on ne peut pas d'un coup en détailler tout le contenu. Ça doit s'expliciter progressivement. Comparaison qui est éclairante, c'est la manière dont Mozart décrivait la manière dont il composait ses œuvres. Mozart explique dans une lettre qu'il avait, tout d'un coup, il avait une idée globale de toute une sonate, de toute une symphonie. Tout était présent en son esprit. Et il lui suffisait alors, à pleine vitesse, de détailler, de développer ce qui était contenu en germe dans cette idée fulgurante qui s'imposait à lui. C'est un peu dans ce sens-là que Newman parle de l'idée chrétienne. Une réalité spirituelle riche de signification parce qu'elle contient des aspects multiples. Elle préexiste à la connaissance que les hommes peuvent en avoir et pourtant elle ne peut devenir vivante que dans l'esprit de ceux qui sont touchés. Il donne quelques exemples lui-même. À l'origine des grandes entreprises humaines, il y a une idée de ce genre. Ceux qui réalisent de grandes choses ont souvent, dès le départ, une idée qui n'est pas encore détaillée, qui n'est pas encore explicitée, mais qui déjà contient tout ce qui va se développer progressivement. De Gaulle, la première phrase de ses mémoires, c'est « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France. » Une idée d'intuition globale, et puis toute sa vie est une manière de détailler l'idée qu'il se faisait de la France. La première partie de ce grand ouvrage, qui existe en excellente traduction française, la première partie de l'essai sur le développement est consacrée à établir la validité d'un développement pour l'Église et pour le dépôt de la révélation dont elle a la garde. La vérité révélée nous dépasse, elle est transcendante, elle vient de Dieu, la révélation. Mais si la vérité révélée est transcendante, il reste que comme toute idée, au sens riche de ce mot, elle est appelée à se réaliser à travers le flux du devenir historique. L'idée chrétienne a dû s'ouvrir aux nécessités et aux contraintes du changement qu'impose la durée de l'histoire. Vous voyez cela à l'œuvre chez Saint Paul. Saint Paul a grandi en milieu juif, mais participant aussi à la culture grecque, vous connaissez très bien le grec, un homme cultivé, il a dû s'adresser pour annoncer l'évangile aux juifs, toujours, commencer toujours par les juifs. Et puis, comme souvent il était plutôt mal reçu, il s'adressait aux païens. Il a dû s'exprimer d'une manière qui tienne compte de la culture grecque, sans la ratifier pour autant dans tous ses aspects, mais il a dû monnayer l'idée chrétienne en s'adressant au monde grec, Même chose après pour le monde latin, et puis après pour s'adresser aux barbares que nous étions à l'époque. Et pour montrer comment l'idée chrétienne est appelée à se développer, Newman propose 7 critères de développement authentique. Il ne suffit pas qu'il y ait un développement, il faut que le développement soit authentique. Parce qu'il y a eu des hérésies dans l'histoire de l'Église. Ce sont des développements, mais des développements qui sont infidèles à la tradition originelle. 7 critères d'un vrai développement pour distinguer le vrai développement et le faux développement. Et c'est intéressant de voir à quels critères Newman a pensé pour comprendre les authentiques développements. Je prends des exemples tout simples. Nous prions aujourd'hui souvent le chapelet. Il est clair que saint Augustin n'a jamais prié le chapelet. Nous pratiquons le sacrement de la réconciliation avec un aveu individuel des fautes. Saint Augustin ne s'est jamais confessé de cette manière-là. Nous pratiquons l'adoration du Saint-Sacrement. Il est clair que Saint Paul n'a jamais vécu l'adoration du Saint-Sacrement. Nous parlons de l'Immaculée Conception de Marie. Il est évident que jamais Tertullien, jamais Saint Irénée n'ont parlé explicitement de l'Immaculée Conception comme telle. Donc il y a eu un développement pour arriver à tout ça. La question est de savoir quels sont les critères d'un développement authentique. Premier critère proposé par Newman, c'est la permanence de ce qu'il appelle le type. En dépit des variations qui l'affectent à chacune des étapes de son existence, l'idée doit conserver son identité, un peu comme nous conservons notre identité à travers tous les méandres de notre vie d'enfant, d'adolescent, d'adulte, de vieillard. Les variations ne font qu'exprimer le dynamisme de l'idée qui doit accepter le changement pour rester elle-même. Exactement, c'est l'exemple pris par Newman, comme l'être vivant doit garder son type spécifique sous les variations successives. Un vivant, c'est un être constamment capable de s'adapter tout en restant identique, tout en restant lui-même. Premier critère pour apprécier un vrai développement, y a-t-il la permanence du type? Ou bien est-ce qu'il y a une rupture, une discontinuité? Second critère proposé par Newman, c'est la continuité des principes. Il veut dire ceci, une idée contient des principes qui sont comme les organes moteurs du développement. Par exemple, toute l'idée chrétienne et tous ses développements vont toujours être marqués par un principe fondamental qui est celui de l'incarnation. Toujours. Il y aura toujours, dans tous les aspects du développement de la doctrine chrétienne, la conjonction de l'incarnation. Vrai Dieu, vrai homme, le divin, l'humain, qui sont toujours étroitement associés. C'est ce qu'il appelle des principes. Ils ont une valeur de généralité, de permanence, ils sont susceptibles de multiples applications pratiques. Ils engendrent des doctrines, la doctrine bien sûr de l'incarnation, la doctrine de en Jésus il y a une seule personne mais il y a deux natures, comme le dira le concile de Chalcédoine. La doctrine de la grâce et des mérites de l'homme, la doctrine de la foi, mais aussi des œuvres. Il y a différentes doctrines qui vont apparaître gouvernées par ce principe. Priver de principe une doctrine, serait gratuite. Il n'y aurait pas de passé, il n'y aurait pas de continuité, mais un principe sans doctrine resterait potentiel, resterait virtuel. Donc la continuité des principes est un critère de vrai développement. Troisième critère proposé par Newman, le pouvoir d'assimilation, la capacité d'assimiler. Quand une idée neuve apparaît, comme était l'idée chrétienne, donc entendez par là la révélation chrétienne qui nous était donnée en Jésus, l'apparition de l'idée chrétienne dans sa nouveauté par rapport au judaïsme, par rapport au paganisme, l'apparition d'une idée neuve contraint celle-ci à entrer en lutte avec d'autres doctrines. C'est évident. Saint Paul a dû prendre distance par rapport à certains aspects du judaïsme. Il a fallu prendre distance par rapport à la gnose. Il a fallu prendre distance par rapport aux hérésies. Et la première réaction, c'est de commencer à se défendre et à se cuirasser dans une attitude polémique. Mais une idée forte, puissante, vraie, ne triomphe vraiment, dit Newman, de sa rivale, qu'en assimilant certains de ces éléments, ceux qui ont une part de vérité, ceux qui ont une affinité avec elle, et en écartant ce qui ne peut pas être intégré, mais donc en assimilant tout ce qu'il y a de valable dans les autres courants d'idées auxquels on est confronté. Le christianisme a intégré et assimilé une bonne part, évidemment, de l'Ancien Testament, du judaïsme. Mais même dans les doctrines des païens, l'idée chrétienne a assimilé, un exemple évident mais beaucoup plus tardif, c'est la manière dont saint Thomas d'Aquin s'est assimilé tout ce qu'il y avait de valable à ses yeux dans la doctrine d'un philosophe païen, Aristote. Il a baptisé, transsubstancié ce qui pouvait l'être, la doctrine d'Aristote, pour en faire un instrument au service de l'idée chrétienne. Donc le pouvoir d'assimilation. Une idée montre sa vie, sa richesse, sa puissance en étant capable d'assimiler avec discernement ce qui peut l'être dans d'autres manières de penser. Quatrième critère proposé par Newman, c'est la conséquence ou la suite logique. L'aptitude pour toute idée à organiser ses conclusions dans une réflexion cohérente. Un développement authentique va se caractériser par le fait qu'il est en cohérence avec tous les autres éléments. Par exemple, un signe d'un développement harmonieux de l'idée chrétienne, c'est qu'on est capable d'intégrer 21 conciles écuméniques et de saisir la cohérence qui unit le concile de Trente avec le premier concile de Constantinople. La suite logique, la cohérence. Cinquième critère d'un vrai développement, c'est que apparaît dès les premières étapes de son histoire, c'est que apparaissent des formes suffisamment nettes du type, de l'idée, pour que l'on puisse y discerner les ébauches et les anticipations de ce qu'il est appelé à devenir dans son accomplissement. Exemple donné par Newman lui-même, le culte de la Vierge Marie. Le culte de la Vierge Marie s'est fort développé au cours des siècles, beaucoup développé au Moyen Âge, beaucoup développé au XIXe siècle. Mais il y avait suffisamment de germes de cela dans les premières décennies et tout premiers siècles de l'Église, pour dire que cette doctrine concernant Marie était déjà présente. Il y avait déjà des signes qui anticipaient les développements ultérieurs dans la forme originelle de la tradition. Le culte de la Vierge, je le cite, le culte de la Vierge témoigne dès les premiers siècles de signes assez clairs de dévotion mariale pour que celle-ci jouisse aujourd'hui d'un titre de continuité. Et Newman appelle ce cinquième critère le critère de l'anticipation de l'avenir. Ce qui va se développer plus tard, on peut déjà le voir en germe, dans les premières expressions de l'idée. Un sixième critère, proche du précédent, c'est le critère de la conservation active du passé.